Comment ça va, Madame Pinchot?
Ça va bien.
10h28. Passez une belle soirée hier. On n'a pas parlé de toi. J'ai l'air un peu ingrat.
Hey, arrête, mon Dieu.
Qu'est-ce que t'as fait
pas
hier?
Pas besoin de parler de moi.
T'étais-tu avec Tite Chum? Tu sais, la petite routine, on écoute un film ensemble, puis après ça, on s'en va se coucher.
On s'est pas vu encore, mon chum, puis moi, c'est
mets tes bigoudis.
Oui, j'ai dit, regarde-moi en face. Regarde-moi en face. Non, mais hier, j'étais chez la kiffeuse. Je sais que t'as pas remarqué. Je m'attendais pas à ce que tu.
Qu'est-ce que t'as fait, hein?
Pour vrai, il y a zéro différence pour toi.
Non. Est-ce que les autres t'en ont parlé?
Ben là, c'est ça, moi, j'ai flyé direct ici. Okay. J'ai pas croisé grand monde.
Y a-tu des gens qui t'en ont parlé? Mettons, petit chum, il t'a-tu vu?
Ben non, mon chum m'a pas vu encore.
Il t'a pas
c'est
vu
les
encore.
Derniers à remarquer en passant, souvent. Hein?
Ben, ouais. Mon chum a remarqué ce changement-là parce que j'ai pâli, puis il préfère mes cheveux pâles que foncés.
OK.
Mais je te donne quelque chose, par exemple, Yann, c'est très naturel et subtil. Je suis revenue à ma couleur naturelle, en fait.
OK. Fait que t'as pâli tes cheveux?
Oui, ils ont pâli.
Moi, je l'ai pas remarqué. Ça coûte combien, hein?
Ça m'a coûté 375 $.
Ben non. C'est bien cher. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un balayage?
Oui, non, mais
c'est quoi?
Ça. Moi, à la base, je suis châtaine très pâle blondinette. 375.
Okay.
Là-dessus, enlève, mettons, un 25$, je me suis acheté un produit.
OK,
là.
Mais mettons 400. OK, ça a coûté 400. Toi, tu es employé, si je suis Leclerc Communication. Tu n'es pas actionnaire, tu n'as pas d'entreprise à part.
Non, c'est ça.
OK, mettons que ça a coûté 400. Quand tu reçois ta paye, là...
Ben Yann, je me souviens à OnlyFans de pied.
T'as vu ce qui est enlevé?
Oui, j'ai vu ce qui
fait que ton 400, il a fallu que tu ramasses 800$
oui,
pour payer ton 400.
Je sais. Ouais. Ben, il y a une chose, par exemple, parce que là, je veux venir à la défense des coloristes et des coiffeuses. Et, parce qu'aujourd'hui, les techniques sont assez exceptionnelles.
Ah, ils ont des études d'astronautes.
J'ai pas des... Attends, Harry... Attends! Oh! Il y a de la formation qui... J'ai mangé mon micro sur un temps, là. Il y a de la formation qui se fait un peu partout. Ils se tiennent vraiment tout le temps au courant d'eux. Puis c'est sûr que le salon dans lequel je vais, c'est un très, très bon salon. Et moi, leur produit, ma couleur naturelle, au point où j'aurais pas à y retourner avant des mois et des mois.
Ouais,
là, j'ai pas à entretenir. J'entretiens pas mes cheveux parce que...
Mais c'est quand même... Je veux juste... Pareil, là. Je trouve que l'écart est devenu vite.
C'est
parce qu'il y a pas si longtemps, là, puis je suis pas née dans les années 20, là. Il y a pas si longtemps, Yannick, je te défends de faire un commentaire. Hey, je suis venue te sauver
pas
le
si longtemps,
cul, là, faire quelque chose.
Il y a pas si longtemps, en 1933.
Hey, va chier, mange la main. Je peux pas croire que je suis en cours avec lui. Non, mais je peux pas croire.
Abandonne-moi pas, moi, s'il te plaît.
Non, mais c'est pour toi, je le faisais bien plus.
Il y a pas si longtemps, mettons 10-20 ans à peu près.
Non, mais avoue comment ça l'a.
Ben non, ça a
coupé carré. Tu sais, à un moment donné, il y a une évolution douce, mais.
Mais tu payes le temps de la main-d'œuvre aussi.
Ouais, ouais.
T'es rendu à 300-400$.
Pour... J'étais là 3h30.
Puis les techniques se sont développées, ce qui fait en sorte
qu'il faut
qu'ils aillent se faire enseigner ces techniques-là.
Mais c'est beaucoup, là.
Les produits,
je sais.
Les études
c'est
pour créer
justifié.
Ces produits-là.
Mais tu sais,
je veux dire, il y a Christian qui pose une question, Audrey. Je pense que c'est une question très pertinente, là. Combien ça t'aurait coûté? Parce que là, tu as dit que tu es revenu à ta couleur naturelle. Et Christian dit, mettons que tu avais attendu un peu plus longtemps, là, ça t'aurait coûté combien de laisser pousser tes cheveux, mettons?
Ben là, 4
ans. Il y aurait une repousse?
Ben, il y aurait une repousse, oui, mais c'est une bonne question, mais Christian, c'est pas... Regarde! Non, mais il y a quelque chose, par exemple, que je veux dire. Tu sais, les gars, la coupe a beaucoup augmenté chez les hommes aussi. Là,
40$.
Des salons, c'est rendu à 40$, tu sais. Puis une époque où c'était 15$.
Ben, moi, je paye pas
les
ça.
Les gars...
Tu te le fais toi-même.
Vous y allez en moyenne, quoi, aux 2-3 semaines pour garder ça clean, mettons, là?
Moi, c'est au genre aux 3-4 mois, là.
Aux 3-4 mois?
Ouais, à peu près.
Voyons donc, tes cheveux te poussent donc même pas vite.
Ouais.
Et mon Dieu, moi, mon chum, je veux dire, il doit prendre un pouce par semaine, c'est ridicule. Puis il y va pas souvent.
Mais là, tu parles de virilité ici.
Ouais, c'est ça. Je l'ai vu en chest. Il y en a partout sur le chest, il y en a dans le dos, il y en a partout.
Il est fourni.
C'est ça.
Mais il y a des gars, bon, je vais y aller avec une moyenne, mettons, de 2-3 semaines. 40$ aux 2-3 semaines. Tu sais, moi, j'y vais aux 6 mois. Fait que j'ai comme l'impression que ça se balance un peu à un moment donné, tu sais. Puis c'est aussi un moment personnel. Tu sais, moi, ma coloriste s'est rendue une amie, là, avec le temps. Pis...
Ça coûte moins cher, le psychologue.
Oui, aussi. Tu sais, je peux se passer mes rendez-vous. Non, mais sans blague, je te le donne pas.
Elle m'enlève l'ouvrage, finalement.
C'est ça. C'est vraiment dispendieux parce que la technique. Si, mettons, j'y faisais teindre tout blond, tout brun, sans reflet, sans rien, probablement que ça me coûterait 80$. Mais là, je pense que c'est le temps, effectivement, les produits pour pas abîmer les cheveux parce que c'est un blond, c'est du décolorant. C'est beaucoup, beaucoup de niaisage.
Mais c'est sûr que c'est justifié, mais on peut quand même se dire qu'en peu de temps...
C'est vraiment cher.
Puis, tu sais, moi, là, ma préoccupation là-dedans, c'est de dire... Ben finalement, il y a juste le monde qui a de l'argent qui peut aller chez la coiffeuse.
Oui,
visiblement, oui.
Oui, hein? Pour vrai, oui.
Non, mais... Non, tu disais, ça me fait du bien, je peux prendre soin de moi.
Moi, c'est un choix pour moi. Ouais.
Mais ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui voudraient faire ce choix-là.
Ouais. Ils ne pourraient pas.
Ils n'en ont même plus accès.
Audrey, il y a Rénal, que je salue, qui dit, en passant, t'es allé le 28 novembre chez la coiffeuse.
Ils tiennent un registre.
OK, Rénald. Rénald a un point, mais j'ai un contre-argument.
Justifie-toi pas. Rappelle-toi ce qu'on a prêté.
Il y a beaucoup de jugements actuellement par texto au 88-971-102.
Mais j'ai une explication qui est vraiment claire.
Oui.
OK. Quand je suis partie 3 semaines en arrêt, je vous en ai glissé un mot avant Noël, j'ai comme pété une crise mentale dans 5e allée du Jean Coutu où j'ai décidé pour la première fois de ma vie que je m'achetais une teinture de pharmacie.
Comment ça coûtait?
10$. Puis j'ai teint mes cheveux brun vraiment foncé, ce qui n'est pas ma couleur naturelle, mais vraiment pas. Qui m'allait pas mal, mais comme... T'es correct, tu sais. Fait quand ma coloriste a su et a vu, ben là, était comme, faut rescaper le problème, là. Fait que le rendez-vous de novembre était pour aider à, comme, ramener la balance à la bonne place. Parce que cette teinture-là que j'avais choisie n'était pas la meilleure qualité, la meilleure. J'étais en train de virer rousse un peu, puis c'était correct, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais allée en novembre.
Ouais. Il y a Guillaume qui écrit, dit, au prix qu'Audrey a payé, on peut s'acheter un Xbox Series S.
C'est vrai.
Un écran gaming 27 pouces.
Mais vous
et
avez
environ
raison,
4
là.
Jeux neufs.
Il y a quelque chose d'autre, par exemple, qui est intéressant, là. Pour être déjà allé... Mon chum vient de la Mauricie, OK? Et lui, il a la même coiffeuse depuis... Toujours. Karine, je la salue. Quand je suis dans le coin, je vais la voir pour faire couper mes cheveux de temps en temps. Puis Karine a encore des prix... Puis là, je veux que ça soit clair, là, je veux pas que ce soit réducteur, mais elle a des prix de Shawinigan. Tu sais, des prix dans le sens de quand tu t'éloignes un peu de la ville. Tandis que quand tu es en ville, ben malheureusement, la compétition fait que, ben oui, c'est des 300-400$ pour des têtes aujourd'hui. Puis c'est excessivement cher, là, puis j'en suis très consciente.
Nathalie m'écrit. Bonjour, Yann. Moi, je vais une fois par année laver, couper, teinture, démaquillant pour cheveux. Puis le prix pour elle, c'est 185$.
Je sais, je comprends. J'ai rien pour ma défense.
Mais bref, je sens que t'es un peu tendu parce que là, on te confronte.
Ben, oui, c'est hein? Ben,
comment on fait pour éviter les tensions entre collègues ou entre amoureux, amoureuses ou entre amis? Les tensions relationnelles, on fait quoi? On commence par quoi?
Ben, ce qui est intéressant, c'est
on parle pas d'argent, on parle pas de politique, on parle pas de Donald Trump.
Ben,
on s'en va des mimes. Là, et on ne communique plus.
La chronique d'aujourd'hui, c'est préventif pour éviter les conflits. Oui. Alors, je demanderai à Yannick d'être très, très attentif à notre chronique d'aujourd'hui. Puis là, on va dire que c'est toutes les chaises sur lesquelles tu es assis.
Oui.
On ne vise pas un endroit plus qu'un autre. C'est quelque chose à pratiquer dans toutes les sphères de ta vie.
Parfait.
La première affaire sur laquelle j'attire votre attention, c'est les petites remarques assassines.
Paul Lévesque, c'est quoi une remarque assassine?
C'est les complimardes.
Complimardes.
Non, mais c'est... Tu sais, c'est la petite remarque qui...
Ça te fait bien le poids que t'as perdu. T'en reste encore beaucoup, là, mais
non,
ça te
mais
fait
là,
bien
ça,
le poids que t'as perdu.
C'est pas juste une petite remarque, je vais te dire, une affaire.
Ça en est une pas pire grosse.
Tu sais, c'est le genre d'affaire qui donne rien de positif.
Ouais, je comprends.
Que t'as dit juste parce que tu voulais te soulager de l'ado qui t'a envoyé chier le matin. La petite remarque que t'as faite parce qu'elle te fait juste du bien. Parce que t'es jaloux de l'autre.
Mm.
Parce que l'autre... Tu comprends? Tu sais, la petite remarque où tu dis... ça vous est tout déjà arrivé où tu t'es dit... C'est-tu fin ou ça ne l'est pas? Moi, même, je le dis à haute voix des fois.
Ou c'est-tu une blague ou c'est plus une blague?
C'est plus une... Jusqu'où? Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent sous le sceau de l'humour.
Ouais. Mm.
C'était juste une farce. Mais tu sais, c'était juste une farce, des fois...
Et poussée, là.
Bon, des fois, la personne n'est pas dans sa belle journée non plus. Là. Elle a peut-être vécu des trucs, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Les petites remarques assassines. Exemple, quand mon enfant dit « Non, je suis sûr, papa, que tu m'as adopté. » Puis je dis toujours « Si je t'avais adopté, c'est pas toi que j'aurais choisi. » Là, ça le tanne un peu.
Oui, mais là, il n'a pas pris ça de nulle part. Quand on pratique notre enfant à dire à sa grand-mère qu'il a été adopté...
Oui.
Hein?
Ouais.
C'est ça.
Il y a ça.
Mais les petites remarques, là, c'est parce qu'on finit par devenir dans... C'est pas grave. On s'habitue jusqu'à un certain point. Puis un moment donné, on se demande pourquoi on est tendu par rapport à une personne. On se dit... Ah, lui, là, elle, là, ça va finir par exploser. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui est devant toi puis qui explose, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il a mangé un matin? Mais c'est peut-être la petite remarque de trop.
Mm.
Tu comprends? C'est les affaires qui, au quotidien, finissent par te faire sentir tout croche. Puis cette personne-là, il contribue. Puis les petites remarques, les petites critiques, les petits... Je trouve qu'on est très habité par ça. On n'est pas habité beaucoup par la gentillesse, la... Tu sais, la... Je vous l'ai dit, j'étais dans l'ascenseur il y a quelques semaines, j'ai juste dit à quelqu'un qui sentait bon. C'est-tu à vous autres, je l'ai dit?
Ça me dit rien.
Non. Je me suis peut-être retenue. Des fois, je regarde Yannick, puis je me dis, il va-tu en profiter? Ça fait que je...
Tu m'as jamais dit ça, moi, en tout cas.
Ben, je suis dans l'ascenseur avec un monsieur. Puis il sent bon. Et je lui dis, puis tu sais, moi, je suis assez généreuse du compliment, là. Je lui ai juste dit, vous sentez bon. Puis il m'a dit, je suis déjà pris.
Il a dit ça?
Il a dit ça! Je suis déjà pris. Hey, tu sais, j'en suis pas revenu. Là, j'ai regardé, ça tombe bien, moi aussi. Puis là, on s'est plus reparlé. Et tu comprends? Même les choses gentilles, maintenant, sont perçues comme... Tu sais, elle veut quoi?
Ouais.
Pourquoi il dit une affaire
comme
de même?
Comme s'il n'y avait plus de gratuité possible.
Oui. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on est en retenue. Je pense que le MeToo n'a pas aidé. Les messieurs se retiennent beaucoup par rapport aux compliments. On a tout mélangé. On a mélangé ce qui peut être dit puis qui fait du bien puis qui est... Tu sais, si tu me dis que je suis belle à matin, je ne penserais pas que tu me croises, là. Parce que pour croiser quelqu'un, ça prend un ton, ça prend une attitude, ça prend... Tu comprends? Puis je trouve que... Je sais pas... Puis là, on verse dans le compliment parce que je pense que le contraire des critiques complimardes, c'est d'être juste une petite remarque gentille, comment ça fait différent dans le ton de la journée. Puis c'est pas cucu, ça se perd, on dirait. On devient suspicieux, on se pose des questions.
Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? C'est-tu de la manipulation?
Ou celui qui va le dire va dire, hey, je sais pas s'il l'a mal pris. Tu sais, éminemment, le monsieur pensait que je le séduisais, là. Mais en tout cas, il est...
Ouais, tu te dis, faut-tu que je me justifie rendu là ou faut pas... Tu sais, ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis j'aime le fait que tu dises qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent sous le couvert de l'humour parce que j'ai le sentiment qu'on se permet d'être plus franc, de communiquer, mais on le fait pas de la bonne façon.
Marie-Pierre dit, j'ai appris que si c'est pas quelque chose qui se change en 30 secondes, tu dois te la fermer. Elle dit, ferme ta gueule. Une graine dans les dents, tu le dis. Cheveux laids, t'en parles pas, tu fermes ta gueule. Poids, t'en parles pas, tu fermes ta gueule. Ah, c'est un bon truc.
Mais c'est un très bon point, je trouve.
Ben oui, puis juste pour te dire comment je m'en pas regardé sur ma feuille qu'est-ce qui était marqué. Ferme ta gueule. C'est marqué tel quel, tu le vois sur ma feuille.
Ouais. Tourne ta langue cette fois avant de parler.
Ben, quand c'est pas utile, quand ça va rien donner, c'est un peu, je rejoins ça.
Ouais.
Quand, tu sais, fais juste, si c'est pas nécessaire, ça sera pas utile, puis au contraire, ça risque, c'est ça qui provoque les tensions. Puis je remarque que plus on est dans l'intimité avec quelqu'un, plus on est à risque de le faire. Tu vas me dire, Paul, on dirait que c'est l'inverse. Non, on dirait que tu es moins gêné.
Il n'y a plus de barrière.
Tu n'as plus de barrière. Puis à un moment donné, tu t'adresses à l'autre. Puis des fois, on se dit, pourquoi il y a de la tension? Là, on parle du couple, mais ça pourrait être ailleurs. Mais plus on est dans l'intimité ou plus on connaît quelqu'un, même au milieu du travail, bien des fois, on est plus dans... On s'en permet. On s'en permet-tu trop?
Ben, y a-t-il une prise pour acquis aussi? C'est une prise pour acquis non, mais elle va le savoir que c'est une blague, voyons donc, tu sais. Tu te permets d'en dire un peu plus, sachant que la personne va comprendre. Et je pense que souvent, il y a un irritant qui part de là aussi, surtout quand t'es proche, comme tu dis, là. C'est parce que c'est dur de casser l'autre. Tu veux pas péter le mood, mais à un moment donné, ça peut être lourd, tu sais.
Oui, puis c'est une farce, vient souvent après la réaction de l'autre. Parce que l'autre a réagi fortement. Ben non, c'est une blague, tu sais. C'est peut-être pas un bon système de défense. Parce qu'une fois que l'autre a été atteint, éminemment, c'était pas une blague, là, tu sais.
Ces tensions-là viennent juste de commentaires ou des fois, ça peut être des affaires de traits de personnalité?
Il y a des gens qui sont plus... On appelait à l'époque soupe au lait. Je sais pas si c'est encore un indicatif qui peut nous apprendre quelque chose. Soupe au lait veut dire une petite tolérance. Il y a des gens qui ont des petites tolérances sociales. Et ce qu'on remarque, c'est plus tu as une estime de soi qui est faible, plus tu es à risque d'être soupe au lait. Parce que tu prends les choses perso, tu comprends?
Tout t'atteint.
Oui.
Okay.
Tout t'atteint. Alors que quand tu as confiance, tu sais, tu auras beau me dire ce que tu voudras, mon système de défense est bien assiselé, mais aussi parce que je me mets pas en doute. Quand tu reçois une critique ou un commentaire poche, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas nécessairement te remettre en doute. Alors que si tu as confiance, tu es bien avec toi-même, tu peux accueillir le commentaire, mais tu ne seras pas nécessairement perturbé. Tu remarqueras que quand tu es perturbé, c'est parce que tu as toi-même un doute par rapport à ça. Ou tu as vécu quelque chose qui te ramène où tu ne veux pas. Tu auras beau me dire, puis tu sais, Je pense, Yannick, là, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je ne sais plus.
Ça fait plus que ça.
Plus que ça, Yannick.
2011.
Tu comptes les années, ben ça oui. me touche. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'années.
C'était un soir d'automne.
Ben, tu sais, Yannick...
Il était habillé en blanc.
Ah, mais je me rappelle, tu faisais un remplacement.
Ouais.
Puis avant le remplacement, tu avais dit, je suis obligée de la prendre, là. Je la connais pas, je le sais pas.
Ouais.
Tu avais dit ça.
Eh oui.
Il y a une mère.
C'est ton genre.
Mais tu sais, il y a de la misère à faire entrer du monde nouveau dans sa vie. Ouais. Fait que là, tu c'est comme une petite bête sauvage. Une fois que tu es dans sa vie, c'est pour toujours, à moins que tu y fasses du mal beaucoup. Mais puis il avait dit ça, puis l'autre personne avait dit, tu vois, ça a été un coup de cœur. Puis ça a été...
J'ai demandé de m'adopter.
Ouais.
C'est vrai, il me l'a dit assez rapidement, ça, quand tu m'as parlé de toi la première fois que tu étais sa mère adoptive.
Ouais. Il a dit mère.
Elle ne paye pas pension, bien. mais oui, mais est-ce que... Parce que des fois, c'est compliqué. Puis tu sais, nous, avec le métier qu'on fait, on n'a pas le choix d'être un peu des bouts d'entrain puis s'achaler une fois de temps en temps, jaser, puis amener d'autres sujets. Tu sais, c'est dur. Des fois, il y a de l'atmosphère de franche camaraderie dans une chambre d'hockey.
Oui.
Tu sais, tout le monde s'agace, là. Ben, hey, tu l'as raté encore comme celle-là d'hier, puis celle-là d'avant-hier, puis l'autre d'avant-hier.
Ben là, tu parles de discernement.
Arrange-toi pour scorer avec ta blonde en soir. On passe notre temps à se chaler. Fait que c'est dur des fois de voir que, comme j'ai dit à Audrey tantôt dans un autre contexte, c'est que tu ne sais pas la personne dans sa journée, qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis là, tu arrives le soir, tu agis exactement comme au dernier match, tu lui dis à peu près 2-3 mardes, puis finalement, là, celle-là, ça passe pas. C'est dur de gager des fois.
Absolument. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça le discernement. Plus tu as du discernement, moins tu te mets dans le trouble. Parce que avoir du discernement, ça veut dire juger. Juger si c'est le bon moment. Juger si c'est le bon timing. C'est ça qui fait que, tu sais, on est tous dans la chambre de hockey, on se taquine toutes. Ben écoute, on est dans le discernement de dire on est au bon endroit, de la bonne façon, au bon moment. Puis, tu sais, si tu l'as échappé, ça se peut que tu l'échappes. Au lieu de dire que c'est une farce, peut-être t'excuser, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Juste dire, oups, c'était pas une bonne journée, j'ai mal évalué la situation, écoute, c'est pas ce que je voulais. Puis, sais-tu ce que je fais, moi, à la fin de chaque conférence, je fais toujours ça. Je dis tout le temps, je vais pas vous laisser en pire état que je vous ai pris. Si par mes propos, j'aurais blessé quelqu'un sans le savoir, n'hésitez pas à venir me voir, parce que je connais pas vos vies respectives. Et des fois, tu peux dire quelque chose qui est mal perçu, mal interprété, parce que tu arrives avec ton filtre. Fait que, il y a ça aussi. Pour éviter les tensions, on peut-tu juste, des fois, avouer qu'on l'a échappé? Tu sais, on n'est pas obligé de se mettre la tête sur le bûcher. Mais pour éviter les tensions, c'est aussi une façon, au lieu d'être dans l'escalade, puis de résister, puis de dire « Non, non, ce que j'ai dit, c'était pas si pire, puis voyons donc. » Juste de dire « Ben, je suis désolée, peut-être que tu l'as mal pris, puis où t'es là, ben, peut-être que t'avais des choses que je comprenais pas. » Tu sais, je vais faire attention.
Puis à l'inverse, quand tu es la personne qui est sur le point d'exploser ou qui reçoit ces commentaires-là, comment tu devrais agir ou réagir? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a ça aussi, tu sais. Il y a personne qui a envie de se rendre à faire un fou de lui parce que de nulle part, cette journée-là, la coche se pète parce que c'est trop.
Quand la personne le reçoit, en fait, quand c'est elle qui le reçoit, ben, ça dépend toujours de ton état émotif.
Oui, mais toi, tu me l'as déjà dit. Sans ça, je fais le pas aujourd'hui. Fait que ça me donne un indice comme quoi c'est pas le temps de t'achaler avec ta coupe de cheveux à 400$.
mais ça, c'est vrai que c'est un point. Moi, c'est rendu... Tu sais, on travaille tellement... puis c'est de même dans beaucoup de corps d'emploi, mais on travaille tellement proche. Tu sais, je vois plus Yann, Denis Pivéro aussi l'après-midi que mon chum, ma famille, mon entourage, mes amis. Fait que tu deviens, veux pas, proche, puis tu c'est ça, t'sais, tu t'agaces, tu te fais du fun, ça fait partie de notre job. Puis effectivement, moi, c'est rendu que quand il y a une journée de merde, je le dis comme en partant. Souvent, là, je vais quitter le studio puis le show grand sourire. Mais tu sais, quand tu te sens plus fragile, peut-être, oui, que ça vaut la peine de le dire, mais en même temps, Yann, tu peux pas te promener avec une pancarte dans le front en arrivant au bureau le matin. Je crierais pas, mettons, à qui veut bien l'entendre dans la station. Et aujourd'hui, ça fait le pas, tu sais. D'un coup, quelqu'un s'est serré.
Ouais, mais tu me l'as dit. Moi, t'es rentré en studio, t'as dit, Yann, me semble que je pense c'est hier ou avant-hier. Tu me dis, Yann, ça me fait le pas aujourd'hui. Ça m'envoie un indice de pas t'écœurer avec tes cheveux.
Absolument. Mais ça, le plus, c'est que ça fait partie d'une de mes recommandations.
T'es fait arnaquer.
Être capable de prévenir.
Je vais chier.
Être capable de prévenir en nommant nos états d'âme. Mm. Encore une fois, on prend pas une espèce de micro pour avertir le monde entier. Mais quand tu préviens, les gens s'ajustent. Moi, là, je suis toujours... incroyablement surprise. Puis, tu sais, des fois, je vais faire, même avec les petits, même avec les enfants, des fois, j'ai affaire à un groupe, c'est déjà arrivé que j'avais quelqu'un que j'aimais à l'hôpital, tout ça. Puis, tu sais, je suis arrivée en disant, aujourd'hui, mon petit cœur est plus gros. Là, je parlais à des enfants. Là. Mon petit cœur est plus gros, on va prendre soin les uns des autres. C'est fou, juste ça. T'es pas obligé de nommer que ta grand-mère est à l'hôpital en train de mourir. Mm-hmm. Quand on prévient les autres, curieusement, au lieu d'aller te chercher parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, puis dans la vie, on a toujours l'impression que c'est de notre faute, naturellement. Audrey, elle file pas, elle me traite pas comme d'habitude. Peut-être que j'ai fait quelque chose. Fait que tu enlèves cette possibilité-là. Donc, tu viens de calmer, justement, chez l'autre, la possibilité d'aller valider, aller vérifier, aller te chercher.
L'autre jour, j'écoutais un podcast familial que je trouvais intéressant parce que les conjoints donnaient leur version des faits sur des conflits qui pouvaient arriver une fois de temps en temps. Puis c'était le cas d'une femme qui avait 7 enfants. Puis avec son conjoint, ils ont décidé qu'elle allait être femme à la maison. Puis c'est quelque chose qu'elle voulait faire, c'est de rester avec les enfants le plus longtemps possible. Et lui, au départ, a accepté. Puis il travaille, puis ils font un bon salaire. Je pense que il avait mentionné son salaire, c'est autour de 250-300 000 $. Fait qu'une famille est capable de vivre avec ça. Puis ils ont 7 enfants. Puis lui, il disait que quand il part le matin, ça va bien, il donne un bec à sa conjointe, puis après ça, il arrive le soir, puis il redonne un bec à sa conjointe, puis il a travaillé pendant la journée, il a travaillé fort, ramène de l'argent à la maison, puis il comprenait pas pourquoi sa femme, elle était pas tout le temps comme super heureuse, parce que, coudonc, elle est tout le temps à la maison, tu sais, elle fait pas grand-chose. C'est ce qu'il pensait. Puis elle, de dire, mais t'as peu, moi, ma journée commence à 5 heures. Toi, tu te lèves à 7 heures. Ma journée commence à 5 heures. Je commence à planifier les déjeuners. Je commence à planifier les lunchs des enfants. Je commence à planifier le dîner parce que les enfants, il y en a certains qui restaient encore à la maison et qui n'allaient pas à l'école. Je planifie aussi le souper. Il faut que j'aille faire l'épicerie. Il faut que je fasse le lavage. Il faut que je nettoie la maison. Il faut que je fasse les chambres. Puis lui, il avait l'air d'un gars qui était comme pas au courant de ça.
Elle arrête pas.
C'est weird. Puis je pense que, tu sais, moi, je pense que si j'avais une conjointe à la maison, je serais capable de faire la part des choses parce que quand je fais les toilettes puis je nettoie la maison, je me rends compte que c'est long faire ça. Mais il n'y avait pas conscience de ça. Mm. Qu'elle, toute la journée, elle travaillait sinon plus fort que lui physiquement, tu sais. Alors que lui, il travaillait au bureau, puis après ça, il arrivait à la maison, puis il voulait que sa blonde soit disponible pour lui, toute souriante, toute fraîche, avec les cheveux tout bien coiffés.
Puis au-delà de ça, tu sais, elle est toujours dans le même environnement. Lui se prépare pour le bureau, il revient relaxer à la maison. Elle, la maison devient son environnement
mais
de travail.
Mais le gars avait le syndrome du bébé singe. Là. Ouais. Fait que là, lui, le bébé singe, là, quand ça fait pas son affaire, il se cache les yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe quand il se cache les yeux. Fait qu'il sortait de la maison, il voyait pas rien de la journée, de ce qui se passait à la maison. Puis il revenait le soir, il enlevait ses mains devant ses yeux. Puis là, il voyait sa femme qui avait de l'air maganée, puis qui était pas tout à fait de bonne humeur, puis avait de l'air fatiguée. Puis là, voyons, comment ça, il y a encore des dodos sur le divan, tu sais. Alors qu'elle, elle avait tout fait de A jusqu'à Z.
Ça devient un gros irritant.
Juste le fait de la faire parler, elle, ça lui a fait prendre conscience à lui qu'elle avait une vie pas mal plus hardcore que la sienne. Là.
C'est fou pareil. Hein?
Ben oui.
Mais peut-être qu'il l'a écouté pour la première fois.
Ben oui, ben le podcast sert à ça.
OK, c'est OK. Parce que je peux pas croire qu'avec 7 enfants, il n'y avait pas eu un wake-up call en cours de route. Tu sais, il arrive comme quelqu'un qui n'a jamais vécu dans cette famille-là.
Mais Paul, quand ça va bien, t'as l'impression que ça va bien?
Ben, peut-être qu'il manquait un petit peu d'empathie, là. Parce que à 7 enfants... Là,
elle aussi aurait dû y dire. Ben, avant de se présenter dans un podcast.
Mais, ben, c'est ça. Ils ont peut-être essayé de communiquer, puis ils sont pas écoutés ni un ni l'autre. Ou en tout cas, parce qu'après 7 enfants, s'il n'était pas conscient de ce que c'est engageant comme job...
Hey, deux, c'est de la
il
job,
était où, là, tu sais, tout ce temps-là? Fait que je me dis, t'as raison, des fois... ignorer ou faire à semblant que ça n'existe pas, c'est une bonne façon de se déculpabiliser. Là,
ouais. Puis savoir ce que l'autre fait aussi. Là, au même titre qu'Audrey, quand elle rentre dans la pièce et elle dit « je file pas », tu sais qu'elle n'a pas eu une belle journée, fait que t'es pas obligé de l'achaler. Là. Fait que oui, on a intérêt à se parler, que ce soit en amitié ou encore entre collègues ou encore en amour. Mais moi, ça m'avait flabbergasté de voir que le gars, il s'est rendu jusqu'au podcast pour découvrir que sa femme travaillait 10 fois plus fort que lui. Là.
Mais ça m'interroge, ça. Ça m'interroge parce qu'il est là le week-end. Je
pense qu'il fait le week-end. Il va au golf. Il a travaillé fort
ben,
toute
il est pas
la
là.
Semaine.
Mais il était où
mais
tout ce temps-là?
Il a travaillé fort toute la semaine. Lui, il voit juste sa... il voyait du moins juste sa vision des choses. Le bébé singe, je pense à ça. Lui, là,
ben oui,
il sort, il se cache les yeux, il n'y a rien qui existe. Pas. Il revient.
Je vais prendre l'exemple de chez nous. Là,
ouais, pis... Prends exemple sur ton chum. Ouais.
Non, non, mais de mes parents.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, okay. Mais là, on est à une autre époque. Là.
Oui, ben, oui, mais tu vas comprendre où je m'en vais. Ma mère était archéologue de métier, puis quand elle tombe enceinte de moi, elle a décidé de s'ouvrir une garderie en milieu familial parce que son métier la faisait voyager beaucoup, celui de mon père aussi. Fait qu'il y avait comme un des deux qui devait se placer, tu comprends, pour qu'on soit élevé, finalement. Ma mère a eu pendant 25 ans une garderie en milieu familial. Puis là, je parle de ma perception d'enfant. Là. Mon père, lui, travaillait beaucoup à l'extérieur, des énormes journées. Lui, il partait à comme 3 heures le matin pour aller s'entraîner. Il était à 5 heures au bureau, revenait à 7 heures le soir. Il chômait pas non plus, tu sais. Mais je sentais des fois qu'il y avait peut-être la perception que ma mère, c'était facile à travailler à la maison. Voyons, t'es dans tes affaires. Tu surveilles les enfants. Il comprenait pas exactement probablement ce qu'était le métier d'éducatrice en garderie.
Mais est-ce qu'il s'y était intéressé?
Bonne question. C'est ça. Écoute, moi, je te parle de perception d'enfant.
Oui.
Mais je sentais des fois qu'il n'y avait pas sa réalité et elle n'avait pas la sienne non plus.
Exact.
Fait que c'est comme si c'était deux personnes qui ne se voyaient pas, ils ne s'entendaient pas quand venait le temps d'en parler. Puis si je rapporte ça à une simple... Je vais ramener ça au ménage. Moi mon chum, quand on était ensemble au début, là, la seule affaire sur laquelle on s'obstinait constamment, c'était le ménage. Parce que mon chum, c'est comme si tout se fait magiquement. Il n'y a jamais de poussière qui s'accumule nulle part, tu comprends? Ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Les plaintes en haut n'ont jamais de poussière.
Ouais, mais
là-dedans.
Il arrive, puis c'est propre.
Dans sa tête, ça ne s'accumule pas là, parce qu'il ne le sait pas. Puis c'est sûr que si tu te mets à tout nommer, ben oui, à un moment donné, probablement que l'autre s'en rend compte, mais... Moi, c'était tout le temps, voyons, je me tape le ménage, j'arrête pas de me taper tout. Lui, ça le mettait en maudit parce que c'est pas comme s'il y a grand chose à faire, la vaisselle puis le plancher, calme-toi. Puis, tu comprends, des fois, t'es juste dans une chambre d'écho parce que tu ne sais pas où t'as pas été élevé de la même manière. J'ai l'impression que t'as pas les mêmes visions, ouais. Peut-être.
Mais je pense, tu sais, je riais du gars, là, tu sais, avec l'histoire de je sors de la maison, je me bande les yeux, il se passe plus rien à la maison, puis je reviens le soir. Mais je pense qu'on est. On est un peu tous comme ça.
À des niveaux et des sujets différents.
Tu sais, le stress que toi, tu peux accumuler à la job, tu sais, ou le stress que toi, tu peux accumuler quand tu fais tes conférences, quand tu rencontres tes clients et tout ça, tu sais. Les gens qui partagent ta vie ou même les collègues, tu sais, moi, je me considère comme un collègue parce que tu viens nous voir une fois de temps en temps. Tu sais, je ne sais pas ce que tu peux vivre comme stress, comme angoisse, tu sais. T'as aussi longtemps que toi, tu ne le dis pas. Pas parce que je fais de l'aveuglement volontaire. Je me dis, crime, mais Paul, elle doit en vivre des affaires des fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confient à toi.
Tu
vis avec énormément de secrets. Mais tu sais, moi, quand je te vois comme ça, tu es tout le temps souriante. Hey, Paul, ça va bien.
Mais tu as tellement raison. Il y a toute une question de perception aussi. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, il y avait un dicton qui disait, attends de marcher dans les souliers de l'autre avant de le juger. Ou attends de... Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours la... hauteur de ce que l'autre vit parce qu'il ne le démontre pas ou tu sais.
Mais c'est touché parce que tu veux pas non plus être la personne qui se plaint. Comprends-tu ce que je veux dire? Là, moi, je le dis à Yann parce qu'on est plus proches, on travaille de proches ensemble, puis je me permets de dire, mettons, journée de merde aujourd'hui, a mal commencé. Mais jamais je me promènerais dans les corridors en disant ça. Imagine la fille, 3 fois semaine, ça file pas parce qu'il y a un bout de rough, puis elle passe son temps à dire que ça va pas. T'sais, j'ai comme l'impression que ça aussi, des fois, les gens ont comme peur de déranger ou ils se disent, bon, ça sert à rien que je l'exprime. T'sais.
Oui. Oui, puis ça me donne rien que j'exprime avec cette personne-là. Parce que ça prend deux éléments. Celui qui le dit, puis celui qui l'accueille. T'as beau le dire, si l'autre l'accueille pas, tu vas finir par plus le dire.
Ouais, puis mettons qu'on fait un peu de psychologie, là. Quand Audrey dit que des fois, elle peut se sentir mal de dire qu'elle va pas bien, c'est-tu parce qu'on a comme une tendance à vivre dans les yeux des gens? T'sais, moi, je considère qu'à partir du moment où tu choisis de ne plus vivre dans le regard des gens, mais tu choisis pour toi, pour les gens qui t'entourent, pour ta famille et tout ça, puis tu prends des décisions qui, parfois, peuvent être jugées par les autres, mais tu t'en fous, ça, je considère que c'est une liberté. T'sais, en vieillissant, moi, j'ai réussi à me rendre là. J'ai pas encore tout réussi à guérir, mais il y a bien des affaires que je vais faire que je sais que ça plaira pas à des gens qui sont autour de moi, mais je sais que je le fais pour le bien, pour les biens de mes enfants, pour mon bien à moi, pour le bien de mes amis qui sont autour de moi. Mais j'ai cessé de vivre dans le regard des gens. Est-ce que quand on a peur de dire à nos amis, hey, on arrive à la job, hey, ça va pas aujourd'hui, c'est parce qu'on a peur de ce qu'ils peuvent penser pour nous, sur nous?
Moi, c'est un gros oui, je sais pas toi, Paul. Là.
Ouais.
Ben, je pense que...
C'est beau tes cheveux, Audrey.
Je te crie même plus.
Non, mais essaye au moins. Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je pense que vieillir, il faut qu'il y ait quelque chose de bon. C'est qu'on a peut-être plus envie d'être aimée à tout prix, mais on a envie d'être respectée. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé ma carrière, ou peu importe dans ma vie, moi, je voulais être aimée, envers et contre tous. Aujourd'hui, si tu m'aimes, c'est un beau bonus, mais je veux être respectée et ça, ça passera pas. Donc, tu as le droit de ne pas m'aimer, mais tu n'as pas le droit de ne pas me respecter.
Ouais, je pense que le respect, il doit y avoir du respect dans l'amour. Là. C'est prioritaire.
Oui, mais il peut y avoir du respect sans amour.
Mm. Oui.
Ben oui, c'est pas tout le monde qui m'aime, là, mais tu sais, même si tu m'aimes pas, ben tu dois me respecter pareil.
Mais je jasais avec deux petits bonhommes qui avaient rencontré un nouveau beau-père, puis ils me disaient, tu sais, papa, on t'aime plus que lui. Hein. Puis là, j'avais dit, tu sais, les gars, je vous demande pas de l'aimer, ça, c'est vous qui allez décider à savoir. C'est... Là, j'ai dit que c'était mes enfants, fait que je peux continuer.
Oui, oui, absolument.
Mon mensonge s'est estompé. fait que là, j'ai dit, les gars, vous êtes pas. Je peux pas vous dire aimez-le absolument, mais vous devez absolument le respecter si lui vous respecte.
Vrai.
Puis après ça, ben, ils me l'ont dit, papa, on l'aime beaucoup, tu sais, puis il fait des activités avec nous autres, puis il nous apprécie. Moi, en tant que père, je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'un beau-père comme ça, tu sais. Mais au départ, les enfants avaient peur de moi. Tout que je pouvais penser d'eux s'ils aimaient leur nouveau beau-père. Fait qu'ils m'en ont parlé, puis ça a été, vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens. Par contre, vous devez les respecter si ces gens-là vous respectent. Puis après ça, l'amour est embarqué.
Mais t'sais. Ça, je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, Paul, t'es reconnu justement pour être, mettons, super pimpante, de bonne humeur tout le temps, pleine d'amour. Tu sais, je pense que des fois, effectivement, il peut y avoir une peur de décevoir les gens parce que tout d'un coup, cette journée-là, tu files pas si pimpante que ça, puis tu files pas pleine d'amour à ce point-là. Puis, en fait, je te prends toi en exemple, mais je vais me prendre moi en exemple, dans mesure où moi, je pense que c'est un peu ça. Des fois, ça m'a frappé ce que Yann a dit. Parce que des fois, je me dis, hey, mon Dieu, mettons les gens à job me connaissent comme la fille de bonne humeur qui rit fort, qui. Hey, s'il fallait que je file pas.
Mais ça s'appelle l'authenticité. Tu sais, malgré le fait que je pense que j'ai peut-être le bonheur facile, quand vous me demandez si ça va bien, j'ai toujours répondu la vraie réponse.
Oui.
Puis il y a des fois que je vous ai dit non, ça va pas. Je vous l'ai déjà dit.
Ben, tu me l'as déjà dit.
Oui, je c'est sûr que j'ai pas envie de tout dire à tout le monde. On est quand même à radio aussi, là. Mais j'essaie d'être le plus authentique possible. Puis tu vois, justement, il y a deux jours, j'étais en consultation privée. Quelqu'un m'a demandé si ça allait bien, parce que c'est rare qu'il me le demande, hein. Je veux dire, c'est plus moi qui leur demande comment ça va, puis on enclenche. C'est assez rare qu'ils vont dire « Attends un petit peu, Paul, comment tu vas? » Il y a des clients qui font ça, des fois, j'en reviens pas, puis ça me touche beaucoup. Ils vont me dire « Comment tu vas? » Je t'ai grippé jusqu'à là. J'ai dit « Ça va pas ce matin au niveau de mon corps, mais ma tête est toute là. » Mais je pense que d'être authentique, ça t'aide aussi à pas jouer de game, à juste être bien au moment où tu es là. Puis c'est peut-être un des secrets. Puis être authentique, ça veut pas dire tout dire, je suis pas obligée de tout te dire, mais d'être authentique. Puis est-ce que les gens ont toujours envie de l'entendre? T'sais, souvent, les gens vont dire, Paul, prends soin de toi. Tu prends tellement soin des autres. Jusqu'au jour où ça les touche pas, j'ai remarqué ça. Ils vont dire, Paul, prends soin des autres, mais le jour où je vais dire non à quelqu'un parce que je dois prendre soin de moi,
c'est son vrai visage.
Bien, ils prendront toujours. ils prendront pas. Tant que ça les touche pas, c'est prends soin de toi, mais il faut pas que ça me touche.
Ouais.
T'sais? Fait que tu as à travailler là-dessus.
C'est hypocrite hein, quand on y pense.
Bien, c'est qu'en fait. Chacun travaille à son bien-être. Puis quand tu vas pas bien, tu sais, quand tu es malade, tellement malade qu'un médecin te dit oui, tu te préoccupes pas si ce médecin-là va bien ou pas.
Est-ce que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs degrés d'empathie. Là. Il y a des gens qui sont très, très, très empathiques. Il y a des gens qui sont moyennement empathiques, puis il y en a qui le sont un peu. Mais ça existe-tu des gens démunis d'empathie?
Oui.
Que ce soit dans notre famille, au travail, dans nos amitiés?
Oui. Oh, oui. Il y en a qui peuvent être que sympathiques.
Ouais.
Tu comprends? Sympathique veut dire « Ah oui, c'est bien beau, je suis gentil, tout ça, mais je me mets pas à la place de l'autre. » Se mettre à la place de l'autre, c'est être empathique. C'est prendre le temps de comprendre qu'est-ce que toi, tu peux avoir comme impact sur l'autre, de comprendre pourquoi il réagit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis si on faisait tout ça, je pense qu'il n'y aurait même plus de guerre. Parce qu'on serait capable de voir l'impact que ça a chez l'autre.
Oui, mais là, il y a une guerre à soir à 20h en passant.
Canada-États-Unis. Oui. Ouais. mais
parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très peu axés vers d'autres personnes là, sur le malheur. Ou des fois, ils vont si ça les touche vraiment eux, là, ils vont même verser des larmes devant toi. Tu vas dire, tabac, ouais, je pensais même pas que tu étais un être humain, man. Mais quand c'est des autres, par exemple, des gens qui, la perte d'un proche, il est arrivé une tragédie, ils ne sont pas capables de ressentir quelque chose si ça ne les touche pas, eux. Mm. C'est weird, ça. Mais il y a une personne qui a fait partie de ma vie longtemps. Elle voyait une personne âgée dans un restaurant qui était seule à manger. Je sais pas, ça va être probablement moi, mais j'ai 90 ans, là, parce que j'aime ça aller déjeuner de seule. Puis elle pleurait parce qu'elle se disait, pauvre petit monsieur, il est seul, il n'y a personne avec qui jaser. Ouais. Fait que j'avais une personne dans ma vie qui était hyper empathique à côté. Puis moi, de mon côté, c'est, ben non, moi, je suis comme lui, là, j'aime ça aller déjeuner de seule. Puis la dernière affaire que je veux, c'est que c'est qu'Audrey, exemple, vienne s'asseoir à côté de moi. Salut, comment ça va? Ben non, je veux juste manger, prendre mon café. Mais il y a des gens que tu me racontes qui sont complètement démunis d'empathie.
Oui.
Ça doit être triste, vivre ça, mais en même temps, ils ne le vivent pas. Ils ne seront pas tristes. Là.
Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des gens qui ont dû mettre beaucoup de pleurs d'oignons parce qu'ils ont vécu une atrocité à l'enfance ou ils ont vécu des choses vraiment difficiles. Puis leur façon de se protéger, c'est de ne plus sentir. Parce que sentir...
De sentir de douleur.
Sentir. Parce que si tu... Sentir émotivement. Si tu gèles la bine parce que tu as vécu trop d'affaires difficiles, parce que ça peut être un mécanisme de protection, si tu gèles, il n'y a pas une congélation ou un dégelage, un dégel qui se fait de façon systématique. C'est si tu as décidé de te geler puis de ne plus ressentir pour ne pas souffrir, c'est que tu ne ressens plus par rapport aux autres non plus.
C'est un je m'en foutisme qui s'installe.
Ben, tu ne ressens pas. Pour être empathique, il faut sentir. Il faut ressentir. Si tu ne ressens pas, c'est pas nécessairement parce que tu es une mauvaise personne. Ça peut être parce que tu as un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être que tu as tellement souffert toi-même, petit, moyen ou grand, tout dépendant dans ta vie, qu'il y a des gens qui vont faire ça en peine d'amour, par exemple. Ils ont tellement souffert qu'ils ont décidé de geler le sentiment amoureux.
Parce que ça fait trop mal.
Ça fait trop mal. Donc, ils ne ressentiront plus de sentiments d'attachement amoureux ou de sentiments qui vont être attirés par les autres. Comme si...
Ça se règle-tu, ça?
Ben, j'ose penser que quand tu prends les bons moyens, on peut dégeler les choses.
Ouais.
Moi, j'appelais ça, à l'époque, je l'appelle encore des fois le syndrome de la religieuse. Cherche pas ça sur Google, là. Tu trouveras peut-être pas les bonnes affaires. Syndrome de la religieuse, c'est... Moi, j'ai eu à intervenir, puis c'est là qu'il m'est venu cette espèce de flash. Il y a pas eu un terme plus joli, je le sais pas.
Quitter la religion.
Quitter la religion, là, tu sais, il est plus plate, ça, là, mais quitter la religion. Et j'ai eu à intervenir avec des personnes qui avaient quitté la religion, qui étaient en couple, puis ça faisait des années qu'ils étaient en couple, puis qui n'étaient pas capables, par exemple, d'avoir d'orgasme, ou qui n'étaient pas capables...
Apostasie.
OK. Écoute, il est tellement cultivé. Ou qui n'était pas capable de...
Google, Paul.
De...
Bitch!
Hey, tu m'as cherché.
André, Audrey, toi aussi, t'as du vocabulaire.
Je trouve qu'André, ça va bien. Ton nouveau prénom. Donc, il y a des gens qui ont été apostasiés de l'Église.
Même physiquement, tu sais, ça peut aller jusqu'à physiquement.
Ils se sont mis en couple.
Ils sont comme bloqués. Ouais. C'est-à-dire, le temps qu'ils étaient en religion, là, ils se sont bloqués pour être sûrs de ne pas sentir rien qui montait, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sentir rien qui montait. Okay. Puis ils ont tellement travaillé sur cette abnégation-là que quand ils sont arrivés en couple, puis moi, des fois, ben là, tu sais, ça fait des années de tout ça. Fait que quand je les ai rencontrés, ils étaient déjà avancé en âge, puis qui était en couple depuis des années, qui me disait « Pau, je suis pas capable. Dans ma tête, je suis capable, mais dans mon corps, puis dans mon cœur, je suis pas capable. » Parce qu'ils ont passé des années à se geler. Et ça, j'appelle ça le syndrome de la religieuse. Donc, ça peut être sur toutes sortes de niveaux, mais tu as dû te geler pour te protéger. Et quand tu es gelé, tu ressens pas le négatif, mais tu sens plus le positif.
Ah, j'aime ça. C'est une conversation, j'adore ça. Il y a divers niveaux d'empathie. Là. Il y en a qui le sont à l'extrême, il y en a d'autres qui le sont très peu. Y a-tu des... Tu sais, moi, là, je vais te donner un exemple. Le petit bébé qui est venu avec nous autres, là,
oui.
Ça m'a fait fendre pour la journée au complet. Ça a gâché ma soirée parce que je ne pensais qu'à ça. Je cherchais les raisons pour lesquelles il y avait des enfants qui naissaient avec des maladies. Je filais vraiment pas. Mais je peux lire quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, exemple, c'est très loin, puis ne ressentir absolument rien.
Ben, ça dépend de quel niveau tu es touché aussi.
C'est à proximité?
Ben, de la façon dont tu es touché, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, « Paul, j'ai toujours été sympathique à la cause des enfants. jusqu'au jour où j'en ai eu. Et quand je me suis mis à avoir des enfants, je suis devenue empathique parce que ce que je vis m'amène à être capable de me mettre facilement à la place de l'autre.
Est-ce qu'il faut nécessairement avoir souffert beaucoup? Tu sais, des gens qui sont énormément empathiques, là, est-ce que c'est des gens qui, pour la plupart, ont souffert beaucoup? Puis c'est comme un effet miroir qui se produit?
Ça peut. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Et on peut se dire qu'on peut comprendre l'autre jusqu'à un certain point.
Parce que tu l'as vécu.
Parce que tu l'as vécu. Puis des fois, parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas te rendre aussi loin que la personne. C'est pour ça que des fois, moi, je demande aux gens, explique-moi pour que je comprenne. Explique-moi de ta façon à toi, de la façon dont tu l'as vécu. Parce que... Puis il y a une chose qui m'avait aussi frappée. Un jour, j'avais été postulée pour travailler avec... les gens qui sont en cure de désintoxication et qui ont besoin, bien sûr, de travailler au niveau de leur intériorité, tout ça. Et il m'avait dit, on passera même pas l'entrevue. Tu sais, t'as l'air le fun, t'as l'air cool, mais est-ce que tu t'as déjà consommé? Non. T'es consommé, de la coke, tout ça, j'ai jamais consommé ça. Il a dit, ben tu seras pas bonne. Mais j'ai dit, je peux essayer? Non. Parce que pour atteindre le niveau d'intervention qu'on veut, faut que ça vienne de l'intérieur. Et vous allez remarquer que quand vous avez vécu quelque chose et vous rencontrez quelqu'un qui a vécu la même chose, il y a comme une espèce de fraternité qui se fait.
Oui, une connexion.
Une connexion. Mmh. Parce que sans se parler, on comprend ce que l'autre a vécu. Il va avoir... Fait que ce qu'on a vécu peut nous geler, mais peut aussi nous ouvrir sur quelque chose qu'on avait... Tu peux juger jusqu'à temps que tu l'aies vécu. Tu sais, à un moment donné, tu juges combien... Je prends l'exemple des parents. Combien de parents, avant qu'ils deviennent, jugeaient, ben couche-les, puis il va arrêter de pleurer. Laisse-les pleurer.
Ouais.
Tu sais, tu faisais des commentaires jusqu'au jour où ça t'arrive, puis toi, ça fait 3 nuits que tu te lèves, puis t'as essayé plein d'affaires, puis que ça marche pas. Là, tu fais, OK, c'est pas si simple. Des fois, tu règles ça facilement dans ta tête jusqu'à temps que tu l'aies vécu. Tu fais, oh, il y a beaucoup plus de ramifications.
Mais c'est facile de parler quand tu connais pas. Là. Moi, je vais au restaurant puis je vois un enfant qui hurle avec son parent. Tu comprends? Je suis en train de refaire le monde dans ma tête puis me dire que moi, mais que j'ai aimé, ça ne sera pas de même. Attends,
bonne chance.
Attends, c'est ça. T'sais, j'ai le sentiment que c'est tellement facile de se faire un monde parfait quand tu ne connais pas.
Ouais.
Il y a un auditeur qui demande, Paul, peut-on être trop empathique là, à t'écouter? Je comprends que oui. J'imagine que cette personne-là recherche peut-être un peu plus d'informations.
Ces gens-là souffrent. Là. Les gens trop empathiques souffrent aussi.
Oui, ben moi, je dirais que je suis peut-être comme monsieur. Moi, j'ai le piton collé de l'empathie, là, nuit et jour. Et je pense que ça a été éveillé. Puis il faut peut-être se demander d'où ça vient. Moi, je pense que j'avais déjà une... J'ai pas choisi ce travail-là pour rien. Mais à force d'être dans l'hypervigilance puis de me soucier des autres puis de prendre soin des autres, c'est comme si ce bouton-là ne se fermait jamais. Puis, la première chose... Moi, j'ai voulu longtemps être autrement, là, parce que je finis par souffrir pour les autres.
Ben oui. T'accumules tout ça.
Ben, puis après ça, je me suis dit, pourquoi je fais de l'anxiété de performance par-dessus ça? Pourquoi je fais pas juste l'accepter pour commencer? Parce que ça a des beaux côtés aussi. Ouais,
parce que Paul a fait des... Je sais pas si elle l'avait déjà mentionné sur les ondes de boulevard, mais a fait des pactes de suicide avec des gens.
Oui.
Donc, c'est des pactes de non-suicide. Là. Donc, il y a des gens qui vont la voir puis qui font un pacte avec Paul comme quoi ils mettront pas fin à leur vie tant qu'ils n'appelleront pas Paul.
Oui.
Fait que genre, vivre avec ça, c'est tough, là.
Mais voyons donc, Paul. Fait que toi, t'es disponible.
J'en ai toujours
24,
au moins. Ben, écoute, j'en ai toujours 7, 8, 9, 10. Toujours, là, j'en ai encore d'actifs. Là. Toujours. Je dors toujours avec mon téléphone cellulaire sur le bord de mon lit. Mon chum le sait. Que je sois à Noël, n'importe où, si ça sonne puis je reconnais, je vais répondre. Peu importe où je suis. Puis... C'est un mode de vie, hein?
Oui.
C'est un mode de vie. Quand tu comprends, des fois, les gens disent « Paul, tu vas te changer. Je vais mourir de même parce qu'il y a des choses de moi que je ne changerai pas. » Puis ce que j'ai envie de dire à monsieur, la première chose, c'est d'accepter qu'on est comme ça. Tu sais, il y a des mères Thérésa dans la vie puis qu'on est comme ça. Maintenant, comment on fait pour se protéger? C'est peut-être d'être capable de mettre ses limites. Parce que c'est pas l'empathie le problème. C'est ce qu'elle nous amène à faire. Moi, de ressentir, c'est une chose. Mais ce que ça m'a amené à faire longtemps puis j'ai encore de la misère, c'est mettre mes limites. Puis dire non.
Ouais.
Dès que je sens quelqu'un... Tu sais, mon comportement de ce matin est révélateur aussi. Audrey, quand elle m'a envoyé son coucou, mon premier réflexe, c'était de...
C'est pas normal. C'est pas normal qu'elle m'a envoyé un coucou. Il se passe quelque
non,
chose.
Mais non,
faut
non,
que je me rende à
mon
station.
Mon réflexe, c'était de me libérer pour y aller. Je me suis même pas posé de questions.
Ouais.
Parce que, rapidement, je me suis dit, lequel est le plus... Lequel je dois choisir entre ce que je fais? J'étais en réunion. puis ils ont bien compris. Puis là, tu sais.
Paul, il reste à peu près une minute. Tu m'allumes sur des choses concernant l'empathie parce qu'il y a. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça a été médiatisé. Là. Il y a des articles de journaux là-dedans. Il y a un homme qui m'avait appelé à la radio, puis il m'avait dit qu'il ne ressentait absolument plus rien de la douleur dans le monde. Puis il m'avait dit d'autres choses par la suite, puis c'est ce qui fait que ça avait fait le tour. Mais il était persuadé d'être un psychopathe, alors que c'était probablement quelqu'un qui s'était gelé sur ses sentiments qu'il pouvait ressentir. Oui. Fait qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui ont l'impression d'être des psychopathes, mais sachez que vous n'en êtes pas, là.
Ben, il y a un cran de plus, hein, le psychopathe, c'est qu'il prend plaisir à faire du mal aux autres. Ouais. On est dans une autre couche.
Exact. Lui, c'était juste qu'il ne ressentait plus rien de la douleur des autres autour. C'était juste gelé, comme tu as
dit. Oui, puis rappelez-vous que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas nécessairement l'enfance qui t'a amené là. Il peut arriver quelque chose dans
moi,
la vie.
Moi, ça m'est arrivé.
Oui, hein?
Ça m'est arrivé l'an passé. J'ai comme vécu 3 deuils en dedans d'un mois et demi. 3 personnes près de moi, dont un de nos collègues qui nous a quittés. Ah, puis il y a comme un moment avec l'accumulation où là, ça allait vite le travail. J'y pensais juste pas. Puis je pense qu'il y a un moment où par peur d'explosion un peu, j'ai un peu fermé la switch. Puis là, ben, je me suis mis à me faire dire par des proches, « Hey, t'es froide, on te reconnaît pas, il me semble que tu manques de vie. » C'est ce qui a entamé un certain processus à travers lequel je suis passée par la suite, mais c'est assez spécial comme sentiment. Puis t'as besoin, en passant, de quelqu'un. Là. Moi, la thérapie m'a énormément aidé parce que c'est un peu ça qui te dégèle pour aller chercher les bébites. Là.
On donne les clés, en fait, pour ouvrir la porte.
Absolument.
Paul, je te remercierai jamais assez d'être avec nous autres une fois de temps en temps. C'est toujours très formateur, puis on apprend toujours plein de choses, puis on s'amuse aussi en même temps.
Ça passe trop vite.
Eh oui.
C'est un grand bonheur, puis là, je pourrais ajouter que surveiller durant la semaine de relâche, je pense que c'est jeudi, 16h30, mais je suis même pas... j'ai l'air fine, je suis même pas capable. Je suis à Radio-Québec. Il y a une émission pour les enfants qui s'appelle Luca et Léo. Donc, je vais être en émission spéciale pour la relâche.
C'est bien le fun.
On te trouve sur paullévesque.net. paullévesque.net. Je rappelle aux gens que tu es éducatrice spécialisée. Tu es spécialiste du comportement humain. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller sur ce site-là. Sinon, les gens peuvent me contacter sans problème sur Messenger. Puis, je les référerai à toi, cher ami. Un gros merci.
C'est un grand, grand bonheur.
Et merci encore de m'avoir accompagné à
10 heures. Comme si ça m'avait fait autant de bonheur et de plaisir. Ah. Oui.
Du 5 au 23 mars, procurez-vous un billet de loterie Heureux Gagnant de la Fondation du CHU de Québec au coût de 150 $. Seulement 3 000 billets qui sont disponibles et c'est 30 000 $ en prix par jour à gagner. Donc, ça peut être de l'épicerie, de l'essence, des crédits voyage, cinéma maison et beaucoup plus. Le tirage, c'est à chaque jour du 31 mars jusqu'au 4 avril. Tous les profits récoltés par la vente de billets seront entièrement consacrés au financement de projets innovants des 5 hôpitaux du CHU de Québec, Université Laval et de son centre de recherche. Donc, procurez-vous votre billet dès maintenant au fondationduchudequebec.org. On s'arrête et on vient tout de suite. Il est 11h16.